Émile Bergerat, Scipion Garcula. Vous a-t-il été donné d'assister à la séance mémorable où Scipion Garcula, député de Provence, obtint le plus beau succès d'hilarité parlementaire que l'histoire du suffrage universel disputera un jour à celle de la Gaieté française? Ce fut prodigieux. On se pâmait sur tous les bancs. Le palais Bourbon ondulait de rire. Mais aussi, quel accent que celui du jeune orateur du midi. Il semblait que tous les petits cailloux de la Méditerranée roulassent dans le gosier de son Démosthénès. Il sut quitter la tribune et la session s'acheva sans qu'il remontât au rostre. Pourtant, Scipion Garcula était un homme de haute intelligence, plein d'idées, de savoir et de courage civique, appelé certainement à un grand sort politique. À Marseille, on voyait en lui un second Barbaroux. Il ressemblait en effet à cet Antinoüs de la Révolution, et aussi beau que lui, il avait plus de force verbale. Il sombra d'un seul coup et à jamais dans cette séance fameuse. Lassant était impossible, terrible, trois fois celui de Tartarin et du légendaire Marius des Galéjades. À Paris, chez ces blagueurs du boulevard, un nouvel essai était inutile. Il avait 30 ans, il se tut. Léon Gambetta, qui seul avait résisté à la traînée de poudre du fou rire, essaya pourtant de le repêcher. Et c'est cette histoire que je vous conte. Je la tiens d'ailleurs de lui-même. « Ça se guérit, lui dit-il en lui serrant la main à la buvette. Et si vous voulez, je me charge de la cure. » Scipion secoua la tête. Il était très vif d'esprit et bon opportuniste déjà. Il excellait à balancer le pour et le contre des choses. « Me guérir, fit-il, et la canebière. Allez boulevard des Italiens, midi. Les nouvelles élections sont proches. » Et en effet, la situation lui posait ce dilemme. Ou renégat de l'accusation originelle, ne pas être élu par les phocéens, ou, fidèle à Saint, être condamné au mutisme dans l'Assemblée, perte du mandat ou langue coupée, au choix. « On vous trouvera quelques sièges ailleurs, » insista le tribun qui menait alors la France, « mais guérissez-vous par patriotisme. » Et cette flatterie avait décidé Garcilas à la cure. Elle fut entreprise par le célèbre comédien Épaton, diseur émérite, professeur au conservatoire, à qui Léon Gambetta le présenta dans les bureaux de la République française. Épaton accepta sans hésiter la tâche. Il était l'inventeur d'une méthode vocco-nasale de déclamation avec laquelle il se chargeait de faire un préville d'un bègue, vaincre une prononciation atteinte de provincialisme, c'était pour lui jeu d'enfant. Mais rendre un barbaroux à l'éloquence, c'est bonbon. Quelle aubaine et quelle réclame pour la vocco-nasale. Son camarade et rival, le tragédien Dunay, créateur d'une autre méthode, dite la gutturo-labiale, en ferait une maladie de jaunisse, peut-être. Top, fit-il donc en jetant la main dans celle de Garcula, je vous demande que 6 semaines. À bientôt, Barnave. La vérité m'oblige à déclarer, à la gloire des Patons, que son traitement réussit un miracle. Non seulement Scipion, les 6 semaines écoulées, n'allusait pas, mais Dieu me pardonne, il grasseyait comme un titi de l'ambigu. un déjeuner au jardi, chez Gambetta lui-même, solennisa cette guérison. Il y fut décidé que Garcia, lâchant la Provence, où il était désormais brûlé, se porterait d'abord et avant tout d'affronter les blagueurs de la capitale dans un département préparatoire. Il pouvait en effet conduire au terme et aux urnes, comme un seul homme, les 1500 matelots et ouvriers de sa flottille et aussi de ses docks. Or, il se trouvait qu'une sœur de la mère de notre Scipion était mariée à Dunkerque avec un riche armateur nommé Van Kerde, fort dévot à l'opportunisme et dont l'influence électorale était décisive dans la ville de Jean Bar. Il pouvait en effet conduire aux urnes comme un seul homme les 1500 matelots et ouvriers de sa flottille et aussi de ses docks. « À propos, Ématon, lui dit-il, êtes-vous bien sûr de l'avoir guéri ?»« De quoi ? De l'absent ? Vous l'avez entendu vous-même au jardin. »« C'est le triomphe de ma méthode. » »« À plusieurs reprises, cependant, le défaut m'a-t-il semblé ?» lui réfléchissait à la langue. Inopinément, au milieu d'une phrase, comment expliquez-vous ce phénomène bizarre de récurrence ? Oh, rien de plus simple, mon cher maître. Scipion Garcia, c'est de son pays et de sa race. C'est-à-dire qu'en Provence, la vérité ne sort pas toute droite de son puits, et qu'il lui faut des fleurs, toujours, et la plupart du temps un masque. Le soleil du midi est trop aveuglant pour elle. De sorte que lorsqu'il ment, lassant, Natal reprend le dessus sur ma méthode. Ah, c'est la nature qui veut ça. Fichtre, s'exclama le dictateur, il faut qu'on ne le sache pas à Dunkerque. Grâce à sa parenté et surtout à la lettre de Léon Gambetta, Scipion avait été reçu comme un fils chez l'armateur Van Kerde et son élection paraissait assurée. Deux conférences organisées par l'opulent industriel lui-même et auxquelles assistaient les 1500 électeurs dévoués dont il disposait avaient déjà révélé les qualités oratoires très fortes, en somme, deviné par son illustre protecteur. La presse locale marquait le pas du succès qu'une troisième conférence donnée au théâtre de la ville devait enlever définitivement. Ai-je besoin de vous dire que le programme était dunkerquois ? Tout part Dunkerque pour le Nord et Jean Bar. D'autre part, la tante Van Kerde restée très philibérienne dans sa transplantation boréale, rêvait pour son barbarou de neveu quelque chose de plus doux et de plus fructueux que le mandat législatif, soit rien qu'au moins de la Céleste Canverde, sa fille, qui, à ses traits de blonde comme fleur de houblon, joignait une dot ministérielle. Scipion n'était pas rebelle et loin de là au projet, et moins encore à la cousine. Il n'attendait même plus pour se déclarer que d'être porté à ses pieds par la voix du peuple souverain. Or, la combinaison de ce mariage politique contrariait un aimable roman de gendresse noué dès l'enfance par la jeune fille avec un ascendant direct du grand corsaire de Louis XIV, nommé héréditairement Claude Barre, sans fortune d'ailleurs et n'ayant que son rôle d'ingénieur et à mettre dans la balance. Il n'était pas douteux que l'élection de son rival ne dût être la ruine de son amour et Claude Barre cherchait une arme pour le défendre. Et le hasard, dieu des amoureux, la lui mit au point. Voici comme. L'illustre Dunay, tragédien d'État et inventeur de la méthode guttural-labiale, tournait alors dans le département, à la tête de ses disciples du conservatoire. Il propageait Mithridate, selon Talma, et la doctrine. Comme l'annonce du chef-d'œuvre dans la cité flamande rabattait peu de racinolâtres sur la location, quelques visites aux notables s'imposaient au chef de la troupe protagoniste. Et celle qu'il vit à Van Kerdey, absent ce jour-là de ses chantiers, l'aboucha avec l'ingénieur. Et au cours de la causerie, Claude Barre apprit ainsi de l'émule des bâtons l'histoire de l'accent traité par la voca nasale et le phénomène de sa récurrence. Qui en avait révélé le secret à Dunay? Le génie de la concurrence. Oui, monsieur, quand le député exagère, l'accent revient comme le parfum de l'ail après la brandade. Et voilà les parlementaires qu'ébattons dans la France. Claude Barre n'en écouta pas davantage. Il avait son arme et tenait son homme. Le matin du jour de la conférence, la dernière de Scipion Garcilas au théâtre, une note perfide insérée dans les échos d'un petit journal satirique rafraîchissait le souvenir d'abord de l'immortelle séance et signalait ensuite la particularité toute physiologique de ce retour d'accent où l'on pouvait juger de la sincérité de l'orateur. « Il n'y a, disait le rédacteur, qu'à ouvrir les oreilles. Je ne vous relaterai point cette conférence. » Scipion, avec sa belle crânerie tribunicienne, l'avait voulu contradictoire. On pouvait l'interrompre, lui répondre librement et le questionner sur tous les articles du programme dunkerquois, purement dunkerquois, par et pour le Nord, sous l'égide de Jean Barre. Il commença par l'éloge emporté du héros d'une voix limpide, coulant comme la Seine même sous les ponts de Paris. Et tout à coup, il tartarina. Il venait d'apercevoir Claude Barre à côté de Céleste dans sa loge. « Oh, ce Zambarre, il a des héritiers, bagasse !» Et ce fut la bouillabaisse. L'effet de la note se produisit, à petite rumeur d'abord, et à rire contenu, par déférence pour Van Kerk et sa famille. L'élève des bâtons reprit pied, et sur les lieux communs du programme, il fit honneur à la voco-nasale. Mais vint l'éloge nécessaire du Nord et des vertus de ces arbrisènes et méditerranées. Il déferla tout entière. Cette fois, l'auditoire se dérida et le théâtre de Dunkerque n'eut plus rien à envier au Palais Bourbon. Il oscilla de fou rire sur sa base. « Mais c'est le midi que tu chantes !» lui criait-on. « À Marseille, Marius ! À Bagarsoulas ! Vive Van Kerdey !» Et le lendemain, l'armateur, à sa grande surprise, apprit que c'était son nom qui sortait des urnes. Claude Barre, par un autre tour d'amoureux, avait ménagé ce réveil au père de sa chère Céleste. Scipion rentra à Paris, sans gloire et diablement déçu, car son échec lui valait deux désastres, dont le plus sensible était la perte de la main de Céleste. Il s'était pris en effet à l'aimer, lui aussi, d'une forte vive flamme, qu'il pouvait repêcher à sa tante d'avoir cruellement fomenté. Quant au mandat, lui avait dit directement Gambetta, il y a les colonies. Mais hélas, C'était du nord que désormais lui brilla la lumière. Un matin, il reçut dans son courrier deux lettres. L'une de Madame Van Kerde, qui l'invitait à revenir à Dunkerque et surtout, disait-elle, à ne pas désespérer encore. L'autre de Dunay, lui demandant un rendez-vous au nom de l'art. Et Mithridate vint. « Voulez-vous, lui dit-il, me confier à moi le soin de réformer votre organe, ou du moins votre vice d'élocution séparatiste ? C'est affaire de 8 jours, par mon système. » « Ah, Guterlolobial ? Oui. »« Allons-y, » soupira le Black Boulet. 8 jours après, Scipion sautait dans le train de Dunkerque. La cure de la sang était radicale. Il disparaissait à l'épreuve dans les pires passe-gasconnades. « Ton oncle, » lui dit M. Van Kerde, « ne tient pas du tout au mandat. Il te le repassera volontiers. À présent, déclare-toi céleste, car tu as oublié malheureux que ce détail. Elle est préparée, elle ne rira pas. Va, tu l'aimes. » Et Garcilas se déclara à sa cousine. Il lui dit son amour tel qu'il l'éprouvait, ardent, loyal, sincère, en brave homme épris. La jeune fille l'écoutait, les yeux grands ouverts, la bouche bée, sans comprendre, car ses mots tendres, ses aveux, ses serments, se coloraient de l'accent fluide du mensonge. Se redressant enfin, indigné, pousse à la porte et s'enfuit. Dunay, par sa méthode, n'avait abouti qu'à lui déplacer la particularité. C'était à présent dans l'expression de la vérité que son vice de langue triomphait. Scipion Garcilas se débattit quelque temps encore contre la fatalité qui lui barra la carrière d'homme public pour laquelle il était né. Mais dans les réunions électorales, il prétextait d'un rhume et s'exprimait par pantomime. Aussi ne fut-il jamais réélu. Il est mort dans une recette générale.